Bonjour à toutes et à tous. Il y a des films comme ça qui marquent vraiment leur époque, et puis y en a qui la dévorent, littéralement. Les Dents de la Mer, ah là là, rien que le titre, ça évoque instantanément la peur, l'été, et puis c'est quelques notes de musique qui vous glacent le sang. On parle quand même d'un film de 1975 qui a non seulement changé la face d'Hollywood, mais aussi notre rapport à l'océan carrément. Aujourd'hui, ce qu'on se propose, c'est une sorte d'exploration pour comprendre ce qui fait de ce film un classique absolu, toujours aussi puissant presque 50 ans plus tard. Et pour nous guider dans cette analyse un peu poussée, on va s'appuyer sur un regard passionnant, celui de Christian Autier, dans un article pour Culture 31. Donc on va s'immerger dans l'œuvre de Steven Spielberg, essayer de saisir comment il a capturé l'air du temps et pourquoi son requin continue de hanter notre imaginaire collectif. L'idée, c'est vraiment de décortiquer la mécanique derrière ce phénomène, quoi.
Oui, c'est une excellente idée, parce que le contexte de sa sortie, il est crucial, vraiment. On est en plein dans ce qu'on appelle le nouvel Hollywood. C'était cette période, fin des années 60, milieu 70, hyper effervescente, où toute une nouvelle génération de cinéastes, les Coppola, Scorsese, Friedkin, De Palma et Spielberg lui-même, sont arrivés et ont un peu bousculé les vieilles recettes des studios. Ils abordaient des thèmes plus sombres, plus critiques aussi, avec une liberté de forme assez inédite pour l'époque. Et c'est justement dans ce bouillonnement créatif que débarquent coup sur coup des films comme Rosemary's Baby ou L'Exorciste. Eux, ils commençaient déjà à brouiller un peu les lignes, tu vois. Ils montraient qu'un film d'horreur, qui était souvent relégué aux séries B, enfin ces petites productions à petit budget, ça pouvait devenir un événement culturel et surtout commercial majeur. Et Les Dents de la Mer, lui, il va enfoncer le clou, mais de manière spectaculaire.
Absolument. Mais juste avant ce tsunami cinématographique qu'est Steven Spielberg à ce moment précis, c'est encore un jeune loup, un petit prodige venu de la télé. Il s'est fait remarquer là-bas, notamment avec un épisode de Columbo qui montrait déjà une maîtrise de la mise en scène assez bluffante en fait. Et ses premiers pas vers le grand écran, ils sont aussi très intéressants. D'abord, il y a eu Duel en 71. C'était un téléfilm, mais tellement efficace dans sa simplicité, l'histoire de ce type harcelé sur la route par un camion anonyme, menaçant, qu'il a été rallongé pour sortir en salle à l'international. C'était un peu comme Les Dents de la Mer, mais sur l'asphalte, quoi. Et puis après, il y a eu Sugarland Express en 74, son premier vrai film de cinéma. Un road movie assez mélancolique. Ça n'a pas été un énorme succès public, mais ça a confirmé son talent auprès de la profession. On voyait qu'il savait raconter une histoire, qu'il avait un vrai sens visuel.
Tout à fait. Ses premières œuvres, elles posent les bases. Une virtuosité technique, oui, mais toujours au service du récit. Et puis ce sens du suspense. Mais Les Dents de la Mer, c'est clairement le projet qui change tout. C'est le défi qui va le faire passer d'espoir prometteur à réalisateur incontournable. On peut dire que c'est le requin qui l'a véritablement lancé dans le grand bain hollywoodien, si on ose le jeu de mots.
Et le film lui-même, il repose sur une idée d'une simplicité redoutable, presque biblique, j'ai envie de dire. Une communauté tranquille, menacée par une force destructrice venue des profondeurs. Une station balnéaire idyllique, Amity Island, juste avant le début de la saison touristique. Et paf, l'horreur, un requin géant qui s'en prend aux vacanciers. Le pitch, il tient sur une ligne. Mais l'exécution, elle, est magistrale. Ce qui est formidable aussi, c'est la façon dont le scénario arrive à tisser l'attention, pas seulement autour du requin, mais aussi à travers les personnages eux-mêmes. Il y a cette résistance au début, là, du maire, plus préoccupé par l'argent des touristes que par la sécurité publique. C'est une critique sociale assez fine, d'ailleurs, quand on y pense. Et puis, il y a ce trio improbable qui est chargé de régler le problème, Martin Brody, le chef de la police, un type bien, mais qui a une peur bleue de l'eau. C'est quand même un comble, hein. Matthew Peur, le jeune océanographe, brillant mais un peu tête à claque, qui représente la science moderne. Et enfin, Kint, le vieux loup de mer, chasseur de requins quasi mythologique, hanté par ses propres démons.
Ah oui, l'alchimie entre ces trois-là, elle est essentielle. Leur confrontation forcée, parce qu'ils sont coincés sur ce petit bateau, leur cas, ça crée une tension psychologique qui vient doubler la menace physique du requin. Cet antagonisme qui est très bien calculé, ces dialogues ciselés, je pense notamment au monologue de Quint, ça ajoute une profondeur assez inattendue à ce qu'aurait pu n'être qu'un simple film de monstre, finalement. On sent presque l'ombre de Moby Dick par moments, non ?
C'est vrai. Et c'est là qu'intervient toute l'intelligence de la mise en scène. Comment il fait Spielberg pour créer une telle angoisse ? Comment ça marche ?
Alors là, il y a clairement une filiation avec Hitchcock qui est revendiquée. Spielberg est un immense admirateur et il applique certaines de ses leçons avec une efficacité redoutable. D'abord, il y a cette idée de faire surgir la peur dans le quotidien le plus banal, le plus rassurant. La plage, les enfants qui jouent dans l'eau, les vacances. C'est beaucoup plus perturbant que de situer l'horreur dans un vieux château gothique, tu vois. Ensuite, et ça c'est peut-être le coup de génie le plus célèbre du film, c'est de retarder au maximum la vision de la menace. Le requin, on le voit quasiment pas pendant la première heure. On voit ses effets, les attaques dévastatrices, on entend la panique, on voit l'aileron fendre l'eau. Mais la bête elle-même reste largement invisible. Et cette suggestion, elle est bien plus terrifiante que n'importe quelle monstration. D'ailleurs, c'est amusant de noter que cette approche était en partie due aux énormes problèmes techniques qu'ils ont eus avec le requin mécanique. Ils l'avaient surnommé Bruce sur le tournage, et il fonctionnait très mal, voire pas du tout parfois. Donc, une contrainte qui a été transformée en un atout majeur pour le suspense.
Ah oui, une sorte de « laissez-mort » forcé qui s'avère hyper payant au final.
Exactement. Spielberg, il joue aussi avec les attentes du spectateur. Ça, c'est un autre classique d'Hitchcock. Il nous donne parfois l'impression d'en savoir plus que les personnages. Ça crée une tension par anticipation. Et puis, hop, il nous surprend ensuite. Et puis, il y a la musique. Bon, que dire de la partition de John Williams ? Ces deux notes répétées, ce crescendo implacable, c'est plus qu'une simple bande originale. C'est un personnage à part entière du film. C'est le signal de la menace imminente. Elle a probablement fait autant pour la peur du requin que le film lui-même, cette musique. On trouve même des clins d'œil techniques très précis. Le fameux travelling contrarié, on appelle ça aussi l'effet vertigo sur le visage de Roy Scheider, donc Brody, sur la plage, au moment où il réalise qu'une nouvelle attaque a lieu juste sous ses yeux. Ce zoom avant combiné à un travelling arrière, ça déforme l'arrière-plan et ça traduit visuellement son état de choc, son impuissance. C'est la grammaire d'Hitchcock, utilisée à la perfection pour amplifier l'émotion.
C'est fascinant de voir comment, si jeune à l'époque, il maîtrisait déjà tous ses outils. Et pas juste pour copier, hein, mais vraiment pour servir son propre récit. Il ne cite pas pour le plaisir de citer. Il utilise ses techniques pour décupler l'impact sur le public de 1975. Et ça fonctionne toujours aussi bien aujourd'hui, il faut dire. Hein. On est scotché à notre siège. Et il y a un autre choix qui est très malin, je trouve. C'est celui des acteurs. Pas de mégastars de l'époque. Roy Scheider, Richard Dreyfuss, Robert Shaw, ils sont excellents, ils ont du charisme, oui, mais ce ne sont pas des têtes d'affiche qui vampirisent toute l'attention. Et ça, c'est voulu. La véritable star, celle qui devait aimanter toutes les peurs, ce n'était pas un humain.
Non, c'était Bruce, le requin. Même s'il était défaillant techniquement, il est devenu l'incarnation de la terreur aquatique. Et au-delà de la créature elle-même, c'est tout le film qui est devenu iconique. La musique, bien sûr, on en a parlé, mais aussi des répliques, comme le fameux « We're gonna need a bigger boat ». Il va nous falloir un plus gros bateau, que dit Brody. Apparemment, c'était improvisé par Scheider, d'ailleurs, et c'est devenu un mème avant l'heure, quoi. L'héritage est colossal, c'est clair. Il y a eu les suites, bon, souvent jugées décevantes, voire embarrassantes pour les dernières. Il y a eu toute cette vague de films de créatures tueuses qui a suivi, qui essayaient de répliquer la formule avec plus ou moins de bonheur, des piranhas ou crocodiles, en passant par d'autres requins, évidemment. Et puis les parodies, innombrables. Quand une œuvre est autant copiée et détournée, c'est vraiment le signe qu'elle a profondément marqué la culture populaire.
Difficile de ne pas le qualifier de classique, en effet. Il a complètement transcendé son genre. Ce n'est plus seulement un film d'horreur ou un film catastrophe, c'est devenu une référence universelle. Mais revenons un instant sur l'impact immédiat du film. Le succès a été absolument démentiel, bien au-delà de toutes les attentes. C'est l'un des tout premiers, si ce n'est le premier, film à dépasser les 100 millions de dollars de recettes juste sur le sol américain à l'époque. Il a littéralement inventé le concept de « blockbuster d'été ». Cette idée de sortir un film à très grand spectacle pendant les vacances pour attirer les foules en masse. C'était une stratégie marketing redoutable, coordonnée avec une sortie nationale massive, ce qui était assez nouveau aussi.
Et si on élargit un peu la perspective, ce triomphe commercial, il a eu des conséquences profonde et assez ambivalente en fait. D'un côté, évidemment, il a propulsé Spielberg au sommet d'Hollywood. Si on combine ça au succès tout aussi phénoménal de La Guerre des Étoiles, de son ami George Lucas 2 ans plus tard, ça a vraiment ouvert une nouvelle ère, celle des films à très très gros budget, conçus pour plaire au plus grand nombre, misant à fond sur le spectacle, les effets spéciaux, le divertissement pur. Mais de l'autre côté, et c'est là le paradoxe, ce Ras de Marée a eu un effet un peu compliqué sur le nouvel Hollywood, dont Spielberg était pourtant issu. Ce mouvement, il portait des ambitions souvent plus autoristes, on va dire, plus critiques. Il explorait les failles de la société américaine, il renouvelait les genres classiques. Et certains analystes considèrent que l'énorme rentabilité de Jaws et de Star Wars a incité les studios à privilégier massivement ce type de production événementielle, qui était commercialement plus sûr, au détriment de projets peut-être plus personnels, plus risqués, plus adultes aussi.
Donc, d'une certaine manière, le succès de ces films aurait contribué à refermer la période de liberté créative qui les avait justement vus naître. C'est ça l'idée.
C'est une interprétation assez courante, oui. On peut dire que le nouvel Hollywood était en quelque sorte victime de son propre succès, ou du moins du succès de ses enfants les plus doués pour le grand spectacle. Les studios ont vu où était l'argent, forcément, et ils ont réorienté leurs investissements. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait plus de grands films d'auteurs par la suite, bien sûr. Mais la dynamique de l'industrie a clairement changé. L'ère des movie brats, comme on les appelait, a un peu laissé la place à celle des tent poles, ces films piliers sur lesquels repose toute l'économie d'un studio.
C'est une dynamique fascinante, quand on y pense. Un film d'une efficacité redoutable, artistiquement maîtrisé dans son genre, oui, mais dont le triomphe économique redéfinit les règles du jeu, potentiellement au détriment d'une autre forme de cinéma. Ça nous amène à voir ces blockbusters sous un jour un peu plus complexe, finalement. Ce ne sont pas juste des divertissements, ce sont aussi des marqueurs de l'évolution de l'industrie et même de la culture. Alors, si on devait synthétiser un peu les points clés de notre exploration d'aujourd'hui, nourris par les réflexions de l'article de Culture 31, on a d'abord un récit d'une simplicité implacable, mais transcendé par une mise en scène qui emprunte brillamment à Hitchcock pour créer une tension maximale. On a ensuite la transformation d'un requin en animatronique, même avec ses ratés, en une figure de terreur iconique, et la naissance d'éléments cultes, la musique, les répliques. Et puis, il y a cet impact sismique. L'invention du blockbuster estival, la consécration de Spielberg, mais aussi, paradoxalement, un tournant qui a contribué à refermer la parenthèse enchantée et parfois plus audacieuse du nouvel Hollywood.
C'est une excellente synthèse des multiples facettes de ce film, vraiment. Et ça m'inspire une dernière question, peut-être une piste de réflexion pour aller plus loin. L'article souligne bien que Les Dents de la Mer a réussi cet exploit d'élever l'horreur au rang de spectacle populaire pendant l'apogée du nouvel Hollywood, donc dans un contexte qui valorisait aussi une certaine ambition artistique, une certaine prise de risque narrative. La question qu'on pourrait se poser, c'est... Aujourd'hui, dans le paysage cinématographique actuel, qui a été largement façonné par l'héritage de films comme celui-ci, est-ce qu'il est encore possible de voir émerger un film qui combinerait à ce point une mécanique de blockbuster ultra efficace, un succès commercial écrasant, et cette forme de maîtrise, cette intelligence de mise en scène qui vient d'une culture cinéphilique profonde, le tout dans l'esprit d'audace qui caractérisait le nouvel Hollywood? Ou bien est-ce que la standardisation des blockbusters, d'une certaine manière, a rendu cette conjonction quasi impossible et a redéfini ce qu'on entend par ambition dans le cinéma grand public.
C'est une interrogation passionnante, en effet, sur cet équilibre peut-être de plus en plus précaire entre l'art et l'industrie dans le cinéma d'aujourd'hui. Une question qui laisse matière à penser bien après le générique de fin. Voilà qui conclut notre exploration des eaux fascinantes et dangereuses, des dents de la mer. Merci de nous avoir suivis.